il y a beaucoup de monde qui a peur, les juges, les journalistes. Ça, c'est la vraie nouveauté de ces dernières deux ou trois années, c'est que tout le monde est une victime potentielle.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardot.
Une page d'histoire mise en récit et en musique, Jukebox qui a pris ses quartiers d'été vous propose chaque week-end de juillet et d'août une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Jukebox revient ce soir en Italie, dans cette décennie de la peur, ces années 70 que l'histoire a surnommées les années de plomb. Du plomb, des balles terroristes que l'extrême droite comme l'extrême gauche éparpillent alors à tout va, rendant le pays absolument ingouvernable. La musique, pendant ce temps, hésite, plus ou moins politisée, se faisant l'écho entre chansons à texte, rock, funk ou disco, des soubresauts terroristes et des luttes sociales. Dans cette histoire, on croisera une ville en flammes, des boîtes d'anchois, un commissaire au-dessus de tout soupçon et des amours inconsolables. Ce soir, Italie 1969-1982, la bande-son des années de plomb. Avait saisi au réveil. Dès qu'il avait repris conscience, il s'était redressé, haletant, au bord du lit, et sans dire un mot, mouvant comme il le pouvait, son corps alourdi de sommeil, il s'était habillé de tout ce qui lui était tombé sous la main. Quelques poignées de secondes plus tard, il était dehors, courant comme un dératé, dans ces rues étrangement désertées. Le silence de la ville seulement crevé par les hurlements des sirènes, des Alfa Romeo, des carabinieri lancés à pleine vitesse vers des ennemis invisibles. Et lui qui court à perdre haleine dans l'air saturé des gaz lacrymogènes lancés par ces mêmes policiers vers Dieu sait qui. L'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême folie qui chaque jour davantage dans ce pays s'insulte, se provoque, s'oppose, se jette des pierres à la figure. Ce matin-là, pourtant, nulle trace de manifestant. Lui, en tout cas, ne voit rien. Il n'a en tête que le visage de cette fille, imprimé dans son esprit, ressurgit la nuit précédente, comme toutes les autres, à la faveur d'un rêve. Cette fille, son seul véritable amour, enfui jadis, mais qu'il lui faut, il le sent, impérativement rejoindre sur le champ, parce que la vie n'attend pas. Si la ville brûlait, c'est vers toi que je courrais, je vaincrais jusqu'au feu pour pouvoir te revoir. Si la ville brûlait, je le sais, toi aussi, tu me rechercherais.
Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, passa in fondo al cuore tuo. C'è un ragazzo, solo io. Ma chi l'ha detto, ma perché? Non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io. Ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città da cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me. Non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te. Ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia. È troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città da te, da te, da te io correrei, anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti.
C'est Bruciasse la città, autrement dit si la ville brûlait, signé en 1969 du chanteur Massimo Ranieri, né 18 ans plus tôt à Borgo Santa Lucia, un quartier de Naples. Posture romantique, mais pas que, tant le pays s'apprête cette année 69 à entrer dans une période pour le moins incertaine. Une décennie de chaos dont les historiens s'accordent à penser qu'elle avait débuté ce 12 décembre 1969 lorsqu'une bombe avait explosé Piazza di Fontana à Milan, archives France Inter.
Rome est Et Milan ont connu en fin d'après-midi une série d'attentats terroristes qui, dans chacune des deux grandes villes, ont fait de nombreuses victimes. La première explosion a eu lieu vers 16h30 à Milan. Une bombe de très forte puissance a explosé dans l'immeuble de la Banque de l'Agriculture, Piazza Fontana. Les victimes sont très nombreuses. Il y aurait 13 morts et 95 blessés. Il est difficile de savoir pour l'instant qui est à l'origine de ces attentats. Les groupuscules extrémistes de gauche ou de droite étant très nombreux et souvent très actifs, aussi bien à Rome qu'à Milan.
C'est finalement vers l'extrême gauche que s'oriente, à tort, l'enquête des carabiniers qui arrête un cheminot anarchiste alors que c'est bien l'extrême droite qui était responsable de l'attaque qui fit ce jour-là 16 morts et 84 blessés. Ce jour-là, l'Italie inaugurait donc ce qu'on appellera plus tard les années de plomb, 10 ans d'un cycle mortifère où le terrorisme d'extrême gauche répond à celui de l'extrême droite avec parfois la complicité nauséabonde des services secrets italiens alimentant avec le soutien de la CIA une funeste stratégie de la tension afin d'éviter à tout prix l'accession des communistes au pouvoir. Mais pour comprendre les choses, revenons maintenant un peu en arrière.
Così non va, cambiamolo noi.
Un mondo nuovo ci sarà per noi, è questione di tempo. Fermeremo noi tutte quelle mani
che fra noi vogliono uccidere senza pietà. Pensiamoci noi,
un nuovo mondo ci sarà per noi, è questione di tempo. Butteremo giù tutte le frontiere
e fra noi non ci saranno più confini mai.
voi così non va, grideremo no.
Il mondo così non va, le monde n'est pas comme ça, clamait en 1967 le groupe Ikkyōdi, formé à Bergame dans les années 60, appelant à changer le monde, à abolir les frontières dans un élan de fraternité et d'humanité. Pourtant, ce début des années 70, les choses sont loin d'être aussi simples. 25 ans plus tôt, l'Italie était sortie de la Seconde Guerre mondiale exsangue. Grâce aux dollars américains du plan Marshall, elle avait lentement relevé la tête au cours de ce qu'on avait appelé le miracle économique. Industrialisation à marche forcée, automobile, pétrochimie, le tout s'accompagnant d'un fort exode rural qui fait qu'en 1958, on compte pour la première fois plus d'ouvriers que de paysans. 10 ans plus tard, 80% des Italiens sont urbains. Enfin, urbains vivant plus ou moins autour d'une ville. Le diable est dans les détails. Car malgré la magie véhiculée par les médias, le miracle et l'enrichissement ne concernent pas tout le monde. La consommation de masse, l'électroménager et les Vespa, c'est bon pour le cinéma et la bourgeoisie des centres urbains. Pour les nouveaux urbains, cette masse d'Italiens peu éduqués, ayant quitté leur sud, le Mezzogiorno, la Calabre, les Pouilles, la Sicile, pour aller trouver de l'ouvrage dans les usines du Nord, la réalité est tout autre. Parqués dans de grands ensembles, des banlieues dortoirs construites à la va-vite, ils affrontent la relégation, loin des centres urbains qu'il faut pourtant bien, chaque jour, rallier pour aller travailler avec des lignes de bus qui ne fonctionnent pas. Je voudrais savoir comment font les gens pour concevoir de vivre dans les maisons d'aujourd'hui, être ainsi mis en boîte comme des anchois. Les bébés qui y naissent sont déjà ridés. Pourquoi les gens ne disent-ils rien ? Salut Mr. Hyde, salut Dr. Jekyll, les bâtisseurs de ces horreurs où les caries germent n'ont pas de visage. Adriano Celentano, I Want to Know, 1976.
I want to know,
vorrei sapere,
I want to know,
vorrei sapere,
vorrei sapere,
I want to know,
vorrei sapere,
I want to know,
come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi, in scatolati come le acciughe, nascono i bimbi che hanno già le rughe. I want to know,
I want to know,
I want to know,
vorrei sapere,
I want to know,
vorrei sapere,
perché la gente,
I want to know,
non dice niente,
I want to know,
I Mr. Hyde, ai dottor Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know,
I want to know,
I want to know,
I want to know,
that I fight forever.
Avez-vous de l'ambition ?
Ben...
Alors partez vite. Quittez vite l'Italie. Quittez l'Italie sans attendre, croyez-moi. L'Italie est en voie de destruction. Un pays magnifique et inutile, destiné à mourir.
Alors selon vous, d'ici peu, ce sera l'apocalypse.
Si seulement c'était vrai, au moins nous nous verrions tous obligés de reconstruire.
alors que ce pays demeure toujours immobile tel quel et aux mains de dinosaures. Croyez-moi, allez-vous-en.
Expression de la détresse des migrants de l'intérieur de l'Italie et de la frustration qui nourrit ces années 70 les luttes sociales conduites par les grands syndicats, ce I Want to Know que signera plus tard en 76 l'un des plus grands chanteurs italiens de tous les temps, Adriano Celentano, né à la fin des années 30 à Milan et qui, après avoir fait des reprises de rock anglo-saxon, développe un rock engagé, notamment sur les thématiques écologiques. Ce début des années 70, donc, seule une élite urbaine profite de la démocratie retrouvée. Ailleurs, de fortes tensions sociales traversent le pays. 1,5 million de grévistes en septembre 69, lors d'un automne chaud où les méridionaux, subissant les cadences infernales des usines du Nord, radicalisent leur grève, occupent leurs usines, inaugurant les corridors de la honte avec crachats et insultes envers les briseurs de grève. En face, l'État augmente certes les salaires et instaure la semaine de 40 heures, mais au-delà, s'avère impuissant dans la lutte contre la corruption endémique qui mine les finances nationales et se montre laxiste et inefficace dans la lutte contre les violences politiques. Politiquement, l'Italie d'alors est alors profondément divisée, polarisée entre une majorité conservatrice et catholique affiliée au parti de la démocratie chrétienne et, de l'autre côté, la gauche incarnée par le parti communiste. Or, ce parti communiste italien, qui est pourtant le plus puissant des partis communistes d'Europe, échoue à porter les revendications des plus faibles. À la gauche de cette extrême gauche, on voit donc naître à Milan, en septembre 70, un groupuscule, les Brigades Rouges, créées par des étudiants de l'université de Trente, qui entendent reprendre l'insurrection abandonnée par les communistes à la fin de la guerre. Les Brigades Rouges commettent leurs premières actions avérées en septembre 70, incendiant la voiture d'un cadre de l'entreprise Siemens. Dans le camp d'en face, l'extrême droite et les néofascistes du mouvement social italien, eux aussi jouent les chefs d'orchestre de l'ombre, comme en février 71 à Reggio Calabria, où des protestations populaires anodines virent à l'insurrection. Rapidement, la peur gagne le pays tout entier.
Quelle différence passe entre une bande de rapinatori qui assaltent un istituto bancario?
Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre une bande de malfaiteurs qui attaquent un bureau de poste ou un encaisseur et la subversion organisée, concertée, institutionnalisée et légalisée? Aucune! Il n'y en a aucune! Ces deux genres d'actions n'ont qu'un seul et unique objectif, bien que les moyens employés soient différents. C'est le renversement de l'ordre social actuel. 6 000 prostituées fichées. Une augmentation de 20% des grèves et des occupations d'édifices publics et privés. 2 000 maisons de rendez-vous recensées. En un an, 30 attentats perpétrés contre les biens appartenant à l'État. 250 viols dans l'année. 50 000 élèves de l'enseignement secondaire défilant dans la rue en hurlant. Une augmentation de 30% des attaques de banques. 18 000 contestataires et agitateurs de plus figurant dans les dossiers. 600 homosexuels fichés. Plus de 70 groupes subversifs de jeunes qui agissent clandestinement et qui violent les lois. Une augmentation de 50% des banqueroutes frauduleuses et des escroqueries. Un nombre toujours croissant de publications et de revues politiques dont le seul but est d'inciter à la révolution.
Extrait du film « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon » réalisé par Elio Petri en 1970, mettant en scène un commissaire pervers promu à la tête de la division politique de la Sûreté de l'État, assimilant, comme on l'a entendu, les délits de droit commun à une subversion plus globale et absolument anxiogène. Ce début des années 70 se traduit donc par une très forte politisation de la culture, du cinéma, on vient de l'entendre, mais aussi de la musique, qui se fait l'écho des réalités de l'époque. Pour résumer, d'un côté, on trouve les chanteurs à texte, de l'autre, les rockers. Dans le premier groupe, issu d'une longue tradition de chansons populaires, célébrée chaque année par le très traditionnel festival de San Remo, on trouve donc les cantautori, ces auteurs-compositeurs idolâtrés par l'Italie, considérés comme des saints, soi-disant indifférents au succès et totalement dévoués à leur art. Parmi eux, on trouve un certain Fabrizio De André, un anarchiste génois né en 1940 et dont toute l'œuvre dénonce la guerre, prend la défense des exclus, des opprimés, des marginaux, des rebelles ou des prostituées. Inspiré par Georges Brassens ou Bob Dylan, il publie en 1971 un album concept inspiré par le recueil de poésie Spoon River Anthology, écrit par l'américain Edgar Lee Masters en 1915. L'album qu'il en tire, intitulé « Ni l'argent, ni l'amour, ni le ciel », s'ouvre par la chanson suivante, « La colline » qui, à travers l'énumération de personnes disparues, de guerres, de maladies ou d'accidents, s'interroge « Où vont nos morts ?» et de répondre « Ils dorment sur la colline.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò sulla strada? Dormono sulla collina, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore? E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male, e Lizzie che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere.
collina, dormono, dormono sulla collina. Dove Jones il suonatore, che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate, mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?
Le chanteur Fabrizio De André pour cette Collina, publiée en 1971. Mais pour l'heure, l'Italie n'est pas encore un vaste cimetière. Au contraire, le pays bouillonne. Tellement que ce début des années 70, les groupes de rock américains ou britanniques inscrivent l'Italie dans leur tournée. Les concerts de rock sont alors l'occasion de scènes de violence et d'émeutes contre la police. On y proteste contre le prix trop élevé des billets ou contre le simple fait qu'il y ait des billets. On se bat à l'intérieur comme à l'extérieur des salles, dans des émeutes qui souvent font office de première partie au concert. Les désordres se multiplient. Led Zeppelin à Milan en 71, Jethro Tull à Bologne en 73, Soft Machine à Naples en 74, Lou Reed à Rome en 75. Résultat, plus tard, vers 1977, les rockstars étrangères railleront l'Italie de leur tournée. Dans le même temps, des groupes italiens précisent, eux, leurs propres intentions rock.
In questi giorni cerco burro, giù da noi, dolce Marta, Marta mia. Ricordo il fieno e i tuoi cavalli di Normandia. Eravamo liberi, liberi.
Ces années 70 sont en Italie celles de l'essor du rock progressif. Ce rock étiré, faisant la part belle aux orchestrations, aux mélodies ou aux claviers. Le genre génère tellement d'enthousiasme sur place que certains groupes anglo-saxons y rencontrent plus de succès que chez eux, comme le groupe Genesis. De nombreux groupes italiens voient le jour, les Orme, Osanna, Neutrals ou bien ceux qu'on entend en ce moment, Banco del Mutuo Soccorso, la banque de secours mutuel pour cette chanson intitulée « Chanson nomade pour un prisonnier politique ».
Ascolta Marta in questo strano autunno. Poi i cavalli gridano, urlano, incatenati ormai. Cosa dire, soffocare, chiuso qui perché?
Non commerciaux et politiquement engagés, certains de ces groupes se donnent même des allures franchement intellectuelles, comme en témoigne l'œuvre du musicien Franco Battiato, imprégné de la mentalité universitaire et philosophique de l'époque et qui, en 1972, sort un premier album où l'on trouve ce phénoménologia, la phénoménologie, cette branche de la philosophie consacrée à l'étude des phénomènes et qui ici clame « Le processus mental humain est incertain, marbre ou ciment. Je vis malgré moi, il est si difficile d'appliquer le contrôle. Le brouillard est là, les contours sont incertains. Je ne connais même plus mes propres dimensions. » Bienvenue du côté obscur de la force. France Culture, Jukebox, ce soir, Italie. La mélodie des années de plomb.
È incerto il processo mentale, la voce è marmo e cemento, è vivo, malgrado me stesso. Difficile attuare il controllo, attorno ai miei occhi c'è nebbia. I contorni si fanno imprecisi.
Ho già scordato la mia dimensione. E forze sconosciute mi strappano da me.
Le musicien Franco Battiato pour ce Phénoménologia, publié en 1972. Et puis, entre ces deux courants musicaux, chansons à texte ou adeptes de la révolution rock, il y a tous les autres, les inclassables. Ainsi, Lucio Battisti, aucun lien avec Cesare Battisti. Lucio Battisti, que certains ont longtemps soupçonné d'être proche des néofascistes, avant qu'on se rende compte qu'il était adulé par l'extrême gauche lorsqu'on avait retrouvé tous ses disques dans une planque utilisée par les Brigades Rouges à Milan. Bref, Battisti qui préfère, face à tout ce chaos politique, se pencher sur le chaos amoureux. L'Italie est alors en train de perdre ses repères, l'empreinte du christianisme commence à décliner. En 70, une loi instaure enfin la possibilité de divorcer. Et encore, afin d'éviter de donner l'impression d'encourager les séparations, la loi prévoit-elle que le couple ne pourra lancer une procédure qu'après 3 années de séparation effective. L'amour, le désamour, les turbulences sentimentales abordées par Battisti, sorte de Gainsbourg local, comme dans son album de 1971, Amore e non amore, sur lequel on trouve ce Dio mio no, autrement dit mon Dieu non, racontant l'attente d'un homme qui a invité une femme à venir le rejoindre chez lui le soir même. « Je tremble déjà d'amour, dit-il, tu viens ici ce soir, ce n'est qu'une question d'heure. » J'espère ne pas mourir en te voyant arriver. Je mets le vin au frigo, la sauce cuit sur le feu. Le boucher devrait arriver et apporter la viande et le caviar. Mais soudain, un doute m'assaille. Viendra-t-elle ou ne viendra-t-elle pas?
Io sto già tremando d'amore. Lei viene qui questa sera. Solo una questione di ore. Spero di non morire vedendola entrare. Potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo. Il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio mi assale. Verrà o non verrà, lei verrà o non verrà, non verrà, non verrà,
te voglio sfiorare i capelli col respiro del mio cuore. Te voglio accarezzare le mani con sguardi leggeri, con frasi d'amore, 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 d'amore. Siede vicino intanto che mangia di gusto la carne, il caviale ed il resto. Dopo aver mangiato la frutta si alza e chiede dove c'è il letto, poi scompare dietro la porta, la sento, mi chiama, la vedo in pigiama e lei si avvicina, e lei si avvicina, vicina, 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 Dio mio no, Dio mio no, cosa fai, che cosa fai, Dio mio no.
Lucio Battisti, Dio mio no, 1971. Les années suivantes, le climat en Italie devient franchement irrespirable. Pas seulement parce qu'en 73, des conditions d'hygiène d'un autre siècle, mélange de pollutions industrielles et domestiques, provoquent une épidémie de choléra dans les quartiers pauvres de Naples. Pas uniquement non plus parce qu'en 74, les Brigades Rouges enlèvent Mario Sossi, un juge de Gênes, pendant plus d'un mois. Ou qu'en face, extrême droite et services secrets désireux d'orchestrer la haine anticommuniste mettent sur pied un attentat sur un train reliant Florence à Bologne, faisant 12 morts et 41 blessés. En Italie, ces années-là, l'addition des morts ne cesse jamais de grimper. Ajoutez à cela la crise économique générée par le choc pétrolier, lequel fait exploser le prix de l'essence, et vous verrez Adriano Celentano, dont on parlait tout à l'heure, chanteur certes engagé mais installé, appelé dans une chanson à la dévaluation de la lire italienne. La chanson en question s'appelle « Svalutation », contraction italo-américaine de « svalutazione », la dévaluation. Les paroles en disent « L'essence coûte chaque jour de plus en plus, la lire cède et chute, les gouvernements ont beau changer, rien ne change, il y a au cœur de l'État un trou où chute l'argent ». Le salaire d'un mois permet de s'offrir un café, les stades sont bondés, mais où sont les gens ? Personne, mon amour, ne nous enseigne à ne pas tuer. On vit plus d'armes que de pain. Pourquoi ?
Et la benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation. Svalutation.
Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare.
l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me sulle tation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane, perché assassination, assassination.
Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. Quando pensi a te, pensa.
Adriano Celentano, Svalutation, 1976. Les violences ces années-là ne diminuent pas. Au contraire, les groupes d'extrême droite poursuivent leurs attaques à la bombe, alimentant plus que jamais le chaos et leur fameuse stratégie de la tension qui, générant l'instabilité, parie sur l'avènement d'un régime militaire anticommuniste et pro-américain. Sauf que les choses ne prennent pas du tout cette tournure. En 76, afin de mettre un terme aux divisions, démocrates chrétiens et communistes concluent leur compromis historique censé permettre, par l'accession du leader des démocrates chrétiens Aldo Moro à la présidence de la République, l'entrée des communistes au gouvernement. Le projet suscite l'écœurement d'une partie de la gauche qui crie à la trahison. Les mouvements terroristes de gauche durcissent alors leurs actions, adoptant la méthode de la jambisation, autrement dit, blesser grièvement leurs cibles, journalistes, magistrats, entrepreneurs, en leur tirant dans les pattes. Le compromis historique qui avortera finalement en raison de l'hostilité générale, celle du pape Paul VI, celle des États-Unis et surtout donc celle des brigades rouges qui, bénéficiant de complicité de la Stasi et sans doute manipulée par la CIA, enlève Aldo Moro lui-même. Archive 16 mars 1978.
Flash du GR2.
Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una.
Nous interrompons nos programmes pour vous communiquer une information dramatique qui nous paraît incroyable. Nous attendons une confirmation officielle. Le président du Parti démocrate chrétien, Monsieur Aldo Moro, a été enlevé il y a un quart d'heure à Rome par un commando de terroristes. Les 5 gardes du corps de l'homme politique auraient été tués.
55 jours plus tard, l'enlèvement trouve une résolution morbide sous la forme d'un coup de fil reçu par la police le 9 mai 1978.
Qui parle ? Brigade Rouge.
Qui parle ? Les Brigades Rouges. Vous avez compris ? Oui. Alors voilà, nous avons suivi les dernières volontés du président. C'est pour dire à la famille où trouver le corps d'Aldo Moro. Il faut avertir la famille qu'elle trouvera le corps d'Aldo Moro via Caetani. Via Caetani. Bien compris? Oui. Le corps est dans une R4 rouge. La plaque minéralogique commence par M5.
Rome en état de choc. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées spontanément devant la Via Caetani, là où le corps a été retrouvé. Rome ce soir, eh bien, ce sont des drapeaux qu'on met en berne, des visages émus, graves, des conversations animées, les sirènes des voitures de police, le vacarme des hélicoptères, et puis les appels des haut-parleurs appelant à la manifestation place du Colisée et appelant à la grève générale. Écoutez.
La condamnation de l'opinion ne tardera pas. Pendant ce temps, à Naples, où depuis longtemps on surmonte les difficultés de l'existence par la fête et la joie de vivre, où la musique est partout, sifflée dans la rue, filtrant des fenêtres ouvertes dans les quartiers populaires, jouée dans tous les restaurants ou lors de toutes les fêtes. Bref, à Naples, une scène funk et disco embrase la ville et appelle, comme ici avec le groupe Oro, à cesser la guerre. Stop the War, le groupe Oro, 1977. La guerre pourtant n'est pas finie, comme en témoignent encore plusieurs attentats. France Inter, 6 août 1980.
En Italie, les carabiniers sont sur la trace d'un suspect, un homme de 22 ans, Marco Affatigato. Plusieurs témoins ont reconnu son portrait robot. Le jour de l'attentat de Bologne, il se trouvait dans la salle d'attente de la gare avec une valise. Interpol a été alerté car le suspect a sans doute passé la frontière. On croit même qu'il a réussi à se réfugier en France. En tout cas, en Italie, le jour où seront célébrées les obsèques des 77 victimes de l'attentat néofasciste, c'est l'union sacrée dans tout le petit monde politique.
L'union sacrée, l'unité nationale qui bientôt de fait se constituera autour de la démocratie chrétienne. À partir de 1980 ont lieu de nombreuses arrestations parmi les groupes d'extrême gauche. Surtout, on incite les interpellés, contre des remises de peine, à dénoncer leurs anciens compagnons d'armes ou simplement à désavouer leur engagement passé. C'est la politique dite des repentis qui entraîne le délitement des organisations d'extrême gauche, tandis que certains militants fuient à l'étranger, comme Cesare Battisti, récemment rattrapé par son passé. Dans le même temps, les luttes sociales voient s'enchaîner les victoires tactiques du patronat, comme chez Fiat, où en 1980, le directeur du groupe, Cesare Romiti, surnommé le Dur, annonce que les difficultés de Fiat nécessitent le licenciement de pas moins de 14 000 ouvriers. Un mois de grève n'y changera rien, au contraire, la facture sociale s'alourdit finalement à 23 000 travailleurs. Il faut dire que, comme on dit alors, ce qui est bon pour Fiat est bon pour l'Italie. Les protestations pourtant ne se taisent pas toutes, ainsi certains artistes continuent à donner de la voix. Vers 77 est apparue à Bologne, en marge d'un mouvement étudiant et autonome, une scène punk, illustrée notamment par un groupe inspiré du dadaïsme et du futurisme appelé les Skiantos. En 1980, ils reprennent un titre composé 15 ans plus tôt par le groupe I Corvi, un titre très connu en Italie, Ragazzo di Strada, et qui clame « Je vis aux marges de la ville, je ne vis pas comme toi, toi qui viens d'un autre monde où vous avez tout ce que vous voulez, moi je suis un moins que rien, laisse-moi tranquille, je ne suis qu'un gars de la rue ». Ragazzo di Strada, le groupe Les Skiantos, 1980. L'Italie change. En 1982, ont lieu de nouvelles arrestations dans les milieux d'extrême gauche, marquant le deuxième démantèlement des Brigades Rouges. 3600 terroristes, ou supposés tels, sont désormais derrière les barreaux. À l'avenir, c'est la lutte contre la mafia napolitaine qui va mobiliser l'État et tenir le haut de la chronique médiatique. L'Italie entre dans une nouvelle ère. Les années de plomb et leurs empoignades collectives font place aux années de reflux marquées par la montée de l'individualisme et le culte du succès individuel. La gauche passe de mode. Les années 80 verront au contraire la montée d'une droite décomplexée. C'est l'époque où un type qui avait commencé sa carrière comme amuseur public, animateur et chanteur à bord de paquebots de croisière, avant de se lancer dans l'immobilier, ce type développe Canale Cinque, la première chaîne privée de télévision, pour inonder le pays de séries américaines. Ce type, cette énigme trumpiste avant l'heure qui se constituera un empire, c'est bien sûr Silvio Berlusconi. Musicalement, les boîtes à rythme et les pistes de danse remplacent les riffs de guitare rageurs. C'est l'essor du disco, des strass et des boules à paillettes, ce qui n'exclut pas la qualité, comme en témoigne ce Maritime Tatami par le groupe de Messine Victrola et qui, en 1983, conte l'histoire de Tatami, un jeune garçon ayant quitté son village natal de pêcheur pour aller se construire une nouvelle vie dans une grande ville.
With the whole of your bliss below, it spreads its like a mango, it slips in like a fisherman.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox ce soir, Italie 69-82, la bande-son des années de plomb. Rendez-vous sur franceculture.fr pour la réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des archives et la possibilité d'exporter les playlists. Vous pouvez également nous faire part de vos suggestions. Merci pour sa connaissance précieuse de l'Italie à Pablo Valero ainsi qu'à Claude Armand de Castio. Jukebox, une émission préparée cette semaine avec Antoine Villose de la discothèque, Annie Lozana Alina, réalisée par Agnès Catou, avec à la console Jean-Michel Bernaud, au micro Amaury Chardot. Bonne soirée et à dimanche, 19h, pour une nouvelle rediffusion de Jukebox.